De vivre avec Dieu, c'est formidable. Et avec Jésus, c'est sublime. Et continuellement, c'est étourdissant. Heureusement, il y a la maladie, il y a la lèpre, la souffrance, les épreuves. Heureusement, hein, tous ceux qui sont autour de lui, à Nazareth, pendant 33 ans. Bon, après, d'accord, quand il l'évangélise, mais quand il est là, il fait des charpentes, des tables. Ça n'existait pas, les tables avant Jésus. Il mangeait allongé. Quel quand il faisait avant. Personne n'allait le voir. Ça se voyait pas. Et puis les gens étaient bien portants quelque part. Les gens malades restaient chez eux. Quelqu'un est malade, il reste dans son lit. On ne le voit pas. C'est un peu gênant, les gens malades. C'est pour ça qu'il y a des maisons spécialisées pour les malades. Mais quand Jésus proclame la bonne nouvelle, lorsqu'il prie, disons, lorsqu'il prie tout seul dans un désert, il ouvre les portes des malades, il ouvre les portes des hôpitaux, il ouvre les portes des maisons. Et en fait, dans l'évangile, c'est les gens qui souffrent, qui vont vers lui. Les gens qui souffrent pas, bon, ils le suivent, ils écoutent ce qu'il dit, ils voient ce qu'il fait, mais ceux qui vont, ceux qui s'approchent, ceux qui le touchent, ceux qui... C'est le malade. Le lépreux, c'est horrible. Lépreux, moi j'ai vu des lépreux en Afrique. C'est épouvantable, ce lépreux. Je crois que c'est difficile de penser pire, enfin, si, avoir faim. Mourir de faim, quand tu te dévores toi-même de l'intérieur. Ça, c'est terrible. C'est lent. Et c'est... Les lépreux et les affamés. Voilà. Alors, Jésus passe, je m'excuse, mais là, tu restes pas dans ton lit. Hein. Alors, il se prosterne, il supplie, il crie... Crie l'humanité comme ça, l'humanité malade, lépreuse. Et elle souffre beaucoup. Mais il y a quelque chose en elle, il y a quelque chose dans notre humanité malade. Heureusement qu'elle est malade, sinon Jésus ne viendrait pas. Il ne s'incarnerait pas. Dieu ne viendrait pas se manifester à nous. Parce qu'il vient se manifester à nous que si on se lève pour aller vers lui. Et grâce aux lépreux, grâce aux évangiles, tout ça, on s'aperçoit. Puis grâce à Mère Teresa de Calcutta, grâce à tout ce que vous voulez, on voit que, en fait, même si on est extrêmement malade, même si on est très, 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 très écrasé par la douleur, la souffrance, il y a quelque chose en nous qui est plus fort que tout, c'est Dieu. On va vers Dieu, ça reste toujours. Il ne reste plus rien que la douleur, plus rien que la souffrance. Il y a une chose qui est vivante, puissante. C'est notre espérance, notre confiance. Et on se lève, et on va vers Dieu. Notre prière prend une puissance, une force. Elle est capable de traverser toutes les forces contraires. L'humanité qui va ailleurs que vers Dieu, on la traverse comme ça, 1 000, 10 000, 1 million, 10 milliards à droite et à gauche. Toi, tu fonces vers Dieu si tu as la chance d'avoir de la souffrance. Pourquoi ? Parce que la souffrance met à nu les forces de résurrection qui sont déposées en nous quand Dieu nous crée. Elles sont là, les forces de résurrection, quand Dieu nous crée, dans l'embryon par exemple. Elles sont là à l'état. Ah. Oui, pourquoi ? Parce que quand Dieu nous crée, il nous crée en nous inscrivant dans le livre de la vie de la résurrection. Et c'est en nous inscrivant dans le livre de la résurrection qu'il nous crée. Alors le chemin, et c'est pour ça que qu'il ne reste rien d'autre, il y a une force unitive d'amour qui est très grande. J'aime beaucoup l'évangile de... Alors Jésus a été ému de la compassion, la compassion de Jésus. Il a étendu la main et lui a dit, je le veux, sois rendu pur. C'est tout ça, je trouve. Parce que c'est l'épreuve. C'est comme si une force de résurrection qui est en lui, qui se jette au pied de Jésus, comme ça. C'est impossible pour lui, l'épreuve. C'est impossible de prier pour lui tout seul. Il prie pour le monde entier, il prie pour l'humanité tout entière. Et ça, c'est l'émotion du Christ, quoi. L'émotion de Dieu. C'est que la souffrance fait qu'on pense aux autres, pas à nous. C'est ça que fait la souffrance. Fait qu'on a plus grand intérêt, là. Mais, du coup, on a une puissance de prière. Jésus crucifié, c'est aussi puissant du point de vue de la... La victoire de la mort et de l'éternité, c'est aussi puissant que toutes les puissances angéliques glorieuses dans la vision béatifique rassemblées. Je suis crucifié, c'est fou. Alors, du coup, à cause de la déchéance, à cause de la ténèbre, à cause de la souffrance, à cause de l'épreuve, enfin, à cause de la contradiction, à cause de la ténèbre, à cause des démons, à cause du mal, l'homme est tellement, notre humanité est tellement réceptive de Dieu. Du coup, sa réceptivité totale est comme un buvard et tout le mal qui est dans le monde se précipite sur nous. C'est ça l'explication de la maladie. Parce qu'on est des êtres d'amour inscrits dans le livre de la vie. Et Jésus, évidemment. Alors, du coup, on est dans l'espérance et dans la confiance. Et ça, c'est l'émotion, du coup. C'est. Ça met en branle toutes les entrailles de l'union hypostatique du Christ. Les entrailles de l'amour lumineux rendu sensible. L'amour et la lumière et la spontanéité agréée de Dieu. À la prière des hommes qui sont dans l'expérience, ça met en branle, elle devient sensible. Il fut ému, Jésus. Il tendit la main, il prolongea et son engendrement éternel, il le prolongea sur nous, en le touchant, en touchant la nature humaine, en ne touchant qu'à la racine. Et c'est vraiment extraordinaire, n'empêche. L'union avec Dieu, l'union avec Jésus, c'est sublime. C'est étourdissant. Et l'espérance, tant qu'elle ne s'ouvre pas en recevant la réponse de Dieu en Jésus, dans sa substance, dans sa transsubstantiation, il va jusqu'à la racine du corps récepteur de l'éternité de Dieu. Ben, il n'est pas lui-même. Donc il n'y a pas l'espérance. L'espérance, il faut qu'elle reçoive Dieu. In persona. In directo. Alors, à travers nos prières, les prières ne sont pas grand-chose, vous comprenez ? Si elles ne sont pas une ouverture, grâce à la croix, grâce au mystère de la participation à la croix, si le mal ne nous touche pas, c'est inquiétant. Mais grâce au mal qui nous atteint, c'est pour ça que Dieu il vient pas pour ceux qui sont justes, ceux qui disent moi ça va, j'ai une bonne religion, tout va bien, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur, j'ai même pas mal de vertus. Ah voilà, je suis assez content. Parce que Marie, elle, c'est l'Immaculée Conception, elle n'est pas comme ça. L'Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle est l'absolution de la nature humaine tout entière. Elle est ce cri de la lèpre, de la nature humaine. Elle est l'absorption du mal. Elle est le mystère de compassion. Elle est la corps rédemptrice de Dieu. Elle est l'espérance éternelle incarnée. Et donc, quand on fait un acte d'espérance, vous voyez, je ne sais pas comment dire, c'est un acte de réceptivité. Il n'y a plus rien d'autre qu'on n'a plus rien d'autre que la volonté divine de Dieu. Oui, je veux soit rendu pur. Je veux que l'humanité tout entière soit rendue pure. Je veux que le mal soit détruit. Je veux que le mal disparaisse du corps et du coup de toute la lumière intérieure, de l'image et ressemblance de Dieu. Voilà ce que je veux faire. Et il touche à celui-ci. Et il dit oui, je veux, soit rendu pur. Et aussitôt, le livre de la vie s'ouvre, pas seulement. Pas celui de l'Immaculée Conception seule, toute seule, et puis les autres débrouillent. Non, non. Le livre de la vie s'ouvre pour tout ce qui est dans le Saint-Dessin, et dans le livre de la vie. Hein. Au plus haut des cieux, c'est le livre de la vie. Au plus profond, les grandes profondeurs de la matière, ouverte à toutes les possibilités d'amour et de lumière de Dieu. Les deux s'ouvre dans une grande voile qui se déchire, et l'espérance, et ça s'est reçu en nous, aussitôt, j'ai fait un acte d'espérance. Faire un acte d'espérance, c'est un pouvoir de résurrection, si je peux dire, hein, un pouvoir, pas d'anastase, mais un pouvoir d'exercice, de relèvement continuellement. Réceptivité. Et je reçois toutes les grâces que Dieu veut donner depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin. Je les reçois comme les chutes du Niagara. Je reçois toutes. Hein. Et en même temps, je reçois la vie éternelle de Dieu Je les ressens. Et aussitôt, Dieu nous donne. Ça, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que nous avons et qui vient des sacrements. C'est le baptême qui met en nous un pouvoir d'espérance surnaturelle, d'espérance humaine incarnée, mais théologale, d'espérance totalement divine, fabriquée avec une réceptivité divine, une capacité de matière, capable de recevoir effectivement toutes les grâces que Dieu a fait sortir de lui en créant l'univers jusqu'à la fin du monde, et en même temps la vie éternelle. Je fais un acte d'espérance. Dès qu'il y a la souffrance, c'est très possible d'épuiser non seulement les forces vives de notre oui originel, mais dans notre oui originel, le oui du baptême, du sacrement, pour faire un acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère, en apprenant le catéchisme, avec une ferme confiance, que vous nous donnez par le mérite de Jésus-Christ toute grâce en ce monde et le bonheur éternel de l'autre monde. Vous me le donnez maintenant. Là. Je le reçois, je l'étreins, et Dieu peut sauver le monde. Dieu peut. Le Christ peut venir se rendre présent à tous les créateurs de Dieu. J'ai fait un acte d'espérance. Ça dure 3-4 secondes. C'est mystique de faire un acte d'espérance. C'est divin de faire un acte d'espérance. C'est surnaturel de faire un acte d'espérance. Je vous assure, c'est vrai, je connais des gens qui sont pratiquants, catholiques, et qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait un acte d'espérance. Et l'acte d'espérance est une vertu surnaturelle, divine, théologale. Et si je fais des milliers d'actes d'espérance, des milliers d'actes d'espérance, alors, au bout d'un certain temps, la réceptivité est totale. Et ce que je reçois est totalement ce que Dieu veut. Oui, je le veux. Ça rendu pur. Et Marie, donc, elle fait un acte d'espérance, tu te rends compte? Mille fois. C'est fulgurant, Marie, c'est facile. C'est fulgurant. Et à chaque acte d'espérance suivant, est plus intense que le suivant. Hein. Plus sublime, plus éblouissant. C'est pour ça que ça va jusqu'au ravissement, jusqu'à l'attardement de la dormition. Hein? C'est en affinité avec la vie éternelle, hein? Déployée à l'intérieur des hypostases. Et se surmultipliant sensiblement à cause de la glorification. C'est pour ça que Marie, quand elle fait un acte d'espérance, il faudrait qu'on soit une petite souris pour rentrer à l'intérieur de Marie, pour voir comment elle fait un acte d'espérance, pour être 200 ans, et puis faire comme elle. C'est le même acte d'espérance qu'elle. Elle est l'absolution. Elle est l'immaculée conception. Je suis. Elle est, comment elle était l'immaculée conception? Elle est l'acte d'espérance qui ne cesse de féconder Dieu, de la vie éternelle, et la sainteté dans le monde, pas seulement sur la terre, hein. Dans l'anastase aussi. Hein. Et nous faisons l'acte d'espérance. On ne peut pas faire l'acte d'espérance si c'est tout seul. Faire l'acte d'espérance. On est ensemble, sinon c'est plus un acte d'espérance. Alors c'est comme ça que petit à petit, à force de faire des actes d'espérance, on le fait avec la maman. C'est normal. On le fait avec Jésus sur la croix. C'est normal. On le fait avec les anges qui sont qui rentrent dans cette admirable disparition victimale d'amour à eux qui sont dans la vision béatifique, dans la lumière de gloire, et ils disparaissent, ils s'effondrent et pour rentrer dans quelque chose qui va faire exploser cette lumière de gloire dans la glorification elle-même. Voilà. Et donc on est pas seul. C'est pour ça que plus on fait des actes d'espérance, plus le centre de gravité de notre nature humaine, on est des hommes, après tout, on est des personnes, chacun. Le centre de gravité de notre nature humaine, c'est la Sainte Famille. Au début, on apprend avec le papa, la maman, le frère, la soeur, on prie ensemble, on va à la messe, tout ça. Oui, tout ça, c'est très bien. On le fait, on aime, grâce à la télévision, on aime ces millions de gens qui vont à la messe du pape, qui vont... Ah, c'est vrai, on va aux Philippines quand il y avait 6 millions de jeunes OGMJ, on est là, on est même ému quelque part, c'est vrai. Ça, c'est un apprentissage, c'est un petit entraînement. Mais notre ordre de gravité, à un moment donné, c'est beaucoup plus la Sainte Famille, c'est Marie. C'est sa sponsorité. C'est Jésus. C'est ce sacerdoce victimal. C'est l'humanité, elle, tout à fait elle-même, dans la clarification de Dieu, indivisiblement. Et notre famille, et si bien que notre famille et nous sommes identifiés, indivisiblement, indissolublement liés, et dans l'indivisibilité, toute simple, on fait un acte d'espérance. Et on le fait à la manière de la Sainte Famille, ressuscitée. Jésus est ressuscité, Marie est ressuscitée, Joseph est ressuscité, Yohanan, celui qui est caressé par la grâce de la fin, est ressuscité aussi. Et nous, on est englouti là, la résurrection m'envahit et je fais un acte de... Et ma prière, c'est celle qui est à l'intérieur. Mon centre de gravité de ma prière, c'est la Sainte Famille. C'est sûr. Le cri intérieur de mon oui originel. La grâce est une union transformante. Bon, vous le savez, tout ça. Et aucun mal, aucun démon ne peut résister à ça. Aucun. Le filet s'est rompu. Hein? Eh bien, comme la cinquième demeure, nous avons échappé. Nous sommes devenus des colombes libres. Nous ne sommes plus damnés. Mais celui qui n'a jamais souffert dans sa vie, il ne sait pas qu'il est damné. Le plus grand malheur dans une vie, c'est d'être damné. Parce que ça dure toujours. J'ai des enfants, par exemple. Mais je ne souhaite pas qu'ils soient donnés. Hein. Donc je souhaite pour eux l'espérance, je souhaite pour eux qu'ils soient unis à Jésus. Je souhaite pour eux qu'il y ait le moins de bonheur possible dans les choses terrestres et dans le temps de la terre. Possible. Sinon, je ne suis pas dans l'espérance. Mais si il y a la croix dans leur vie, s'il y a Jésus dans leur vie, c'est une action de grâce. C'est une vie, c'est un cri d'espérance continuelle, de plus en plus grand. Ça. On est dans une société de moins en moins, de plus en plus diabolique, hein, donc on souhaite qu'il n'y ait pas de souffrance. Jésus, il a étreint la nature humaine, il a créé pour lui sa propre nature humaine, tout en restant Dieu d'ailleurs. Il n'y a pas de personne humaine dans Jésus. Mais il a un corps, il a une âme humaine, il a une vie humaine, il a une chair humaine, il a une sensibilité humaine, une sensibilité qui est tellement humaine qu'elle est en même temps... Elle éprouve toutes les sensibilités animales et végétales, toute l'aspiration de la matière. Il est tellement humain, Jésus. Mais dans sa personne divine, qui irrigue intensément, substantiellement, et divinement, dans sa grâce capitale, cette sensibilité humaine, il est ému. Il est ému parce que quand il voit le mal atteindre, la maladie, la souffrance, il se reconnaît lui-même. Il ne se reconnaît que dans l'intériorité, le visage de la croix, dans l'absolution du péché, dans l'Immaculée Conception. Donc quand il voit un lépreux, il dit, voilà cela, voilà. Voilà. L'homme béni de Dieu. Mais s'il voit un pharisien qui est rempli de vie intérieure, de satisfaction, parce que finalement, c'est un bon pharisien. Jamais malade. Le pharisien, il ne se précipite pas au pied de Jésus pour dire guéris-moi. Parce que Marie est tout le temps à s'effondrer à l'intérieur de Jésus. Tout le temps, pendant toute sa vie. Tout le temps s'effondrer, disparaître à l'intérieur de Jésus. Guéris-moi. Elle est cette absolution en demande, en supplication. Et la souffrance du monde, en réceptivité. De l'invasion. Amoureuse de Dieu, elle est le mystère de compassion. C'est un abîme de supplication, de souffrance, c'est vrai, de souffrance recueillie dans le toucher immédiat de l'absolution éternelle. Sur la terre, elle n'a rien pour elle. Strict. Rien. La terre est trop souffrante et donc elle a assumé toute la souffrance de la terre en elle pour ne vivre que du bonheur du ciel dès cette terre. Mais si elle avait cherché le bonheur sur la terre, elle aurait pu, hein. C'était foutu pour nous. Un enfant qui cherche le bonheur sur la terre, qui s'attache aux choses de la terre, c'est le plus grand malheur qui puisse lui arriver. Tout lui réussit. Oui, les gens comme ça, ils sont splendides, ils sont beaux. Si c'est ça, c'est qu'ils sont pas gentils. S'ils sont comme ça, c'est qu'ils sont pas gentils. Mais plus tu es dans l'espérance, moins tu es de la terre. Et plus tu es un être humain. Et moi, tu es un démon. Hein? Bon, vous savez tout ça. Mais notre société nous aide pas pour ça. Il faut être en sécurité. Il faut avoir des assurances. Il faut être malade. Souffrir, un petit peu de souffrance, vite, morphine. Ah, tu es en train de peut-être tu vas mourir, vite, chut, hop, état second. Vite, lumière, pas d'angoisse, ta. Non. C'était ne nous aide pas. C'était nous aide pas. Mais Jésus vient nous aider. Il est venu pour ça. Il est venu nous aider. Il réouvre en nous toutes les portes de la mort de la croix. Toute ma vie, pendant 70 ans par exemple, 120 ans, ça dépend des âges, est un cri de souffrance. Merci Seigneur. Mais si toute ma vie, pendant 120 ans, est un cri de bonheur, de puissance, d'épanouissement, attends, hein. Ça, c'est inquiétant, ça. Toute ta vie, t'as marié, toute ta vie de marié, c'était dans la croix de Jésus. Et d'ailleurs, quand il est au pied de la croix, au moment où Jésus arrache son âme, l'union hypostatique vient de se déchirer là, à cette seconde-là, sous ses yeux. Elle y rentre encore, elle y rentre toujours. Et elle touche physiquement son immaculée conception. Parce que son immaculée conception, elle est là. Dans cet instant, Jésus. Alors elle touche pour la première fois. Elle le touche corporellement à l'instant. Et la matière, dans toutes les possibilités de déploiement dans l'éternité, en amour, c'est elle. L'Immaculée Conception, c'est l'union hypostatique de Jésus. C'est elle est. C'est ça la définition de l'Immaculée Conception comme dogme. Alors, elle a été conçue. C'est là, c'est dans cet instant-là qu'elle a été conçue. Comme dit en latin, tenui. Elle l'a tenue. Elle s'est accrochée à ça. Nec dimittam, elle ne s'en sépare plus. Je t'ai étreint, elle avait tourné ça eucharistiquement dans son cœur pendant encore 20 ans jusqu'à l'étourdissement de la dormition. Je te dis, tiens, je te lâcherai plus que je t'ai fait pénétrer dans la chambre, dans le lit, dans la demeure de celle qui m'a conçu. Toucher sa conception. Et elle avait la jonction ce jour-là entre le livre de la vie ouvert dans le plus haute splendeur à Dieu. La glorification de Dieu est le plus profond de la conception. Elle a fait le lien, élargi sa tente. La croix la plus pure de Marie. C'était un acte d'espérance. Voilà, donc c'est... Donc c'est un apprentissage mystique, c'est un apprentissage intérieur, c'est un apprentissage de vie intérieure que l'acte d'espérance. C'est un apprentissage de communion. Je découvre comment, dans la croix, c'est Dieu qui peut s'épanouir. Et la désolation s'effaçait. Dans la gloire de la croix. Alors, tout ça pour dire que le centre de gravité de notre vie sur la terre, c'est la Sainte Famille. On se rend compte que quand on prie plus en plus, on s'aperçoit que c'est pas notre prière, c'est la prière de Marie, Joseph, Jésus. Jésus, c'est une nature humaine créée. Et Dieu est plus grand que lui, même si c'est lui qui a créé cette nature humaine créée qui est Jésus. Et Jean, enfin tout ça, c'est toute la Jérusalem glorieuse, qui sont ensemble et qui prient parce que ça, c'est pas assez, quoi. La résurrection, c'est rien, quoi. C'est rien à côté de ce cri d'espérance. L'agneau de Dieu. Qui vient combler de bonheur éternel l'intimité profonde de Dieu lui-même ouvert. Et désolé que ce ne soit pas encore fait dans son accomplissement. Et on s'aperçoit que ça, quand on prie notre Père, par exemple, vous dites à notre Père, mais c'est Marie, Joseph, Jésus, qui font cette prière. Et le font parce qu'une fois ressuscité d'entre les morts, corps, âme et esprit, il n'y a qu'une seule chose qu'ils désirent, c'est de retourner à la croix. C'est pas de retourner en arrière, c'est aller plus avant. Dans l'agneau de Dieu et le suivre partout il va, parce que l'agneau de Dieu, il n'y a plus que Dieu. La nature humaine s'est ouverte dans l'union apostatique de Cyril de Jésus glorifié. C'est pour ça que Saint-Thérèse d'Avila dit que la caractéristique de la septième demeure, c'est de l'union de mariage avec Dieu, dans l'union transformante, c'est une soif insatiable de souffrir. C'est pas tellement l'esprit du monde. L'athéisme, c'est une soif insatiable de ne pas souffrir. C'est la différence qu'il y a entre la réalisation bodhéique. Voilà, je sais être réalisé dans la lumière, le plasma et l'amour universel. Et la vie chrétienne. C'est la différence qu'il y a entre l'Antichrist et le Christ. Le Christ, c'est l'espérance du monde. L'Antichrist, c'est l'abîme de la désolation et la séparation de Dieu. Mais dans une recherche insatiable de lumière, de réalisation, d'épanouissement, et même de compassion, hein. Empathie, tout ce que tu veux. Vous savez tout ça. C'est toute votre vie, ça. Enfin, Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter dès que c'est possible, vite, 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 si on peut. Tu peux pas me torturer, s'il te plaît, hein, avec du fer rouge, machin. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut faire des actes d'espérance. Donc, on fait un acte d'espérance, on est transplanté, on est intérieur de Jésus crucifié. Et ressuscité. On est dans la stase de la Sainte Famille. Inspiré à suivre l'agneau partout où il va. Et on le fait au nom de la nature humaine tout entière. Instantanément, automatiquement, c'est comme ça. C'est un miracle qui vient de Dieu. C'est que tu fais un acte d'espérance. C'est comme si la nature humaine tout entière, tous ceux qui ont existé, tous ceux qui ont été créés, tous ceux qui existeront. Et tu en es la bouche. Tu en es l'expression. C'est ça, hein, avec l'espérance. Ça m'est. T'as pas besoin d'inventer de nouvelles. Toi, réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourra inventer comme nouvelle cruauté contre moi-même pour que je puisse souffrir davantage? C'est pas ça. Mais si tu rentres dans la croix du Christ, tu ne peux pas trouver de souffrance supplémentaire plus grande. Alors, tu ne restes plus qu'un acte d'espérance, et toutes tes souffrances, toute la croix de Jésus t'envahit. Ah. Et il a créé, en mourant comme ça sur la croix, si je puis dire, il a créé en toi, dans ton cœur, c'est parce que tu prends la dernière goutte d'eau, tu prends la dernière goutte de sang et tu reçois cet acte qui s'est enfermé dans l'hostie jusqu'à la fin du monde, et il est resté enfermé dans l'hostie jusqu'à la fin du monde. Et s'il est ressuscité d'entre les morts, il a laissé cette souffrance prisonnière d'un mort dans l'hostie. Elle est pour toi. C'est pour que je puisse vivre avec lui. Et s'il y a une petite souffrance supplémentaire, je suis drôlement heureux parce que du coup, tu peux rentrer à fond, quoi. Si tu n'as aucune souffrance, tu ne peux pas rentrer dans la croix du Christ. C'est impossible. Il n'y a pas de grâce d'union, quoi. Donc s'il y en a une, enfin un sacrifice. Et hop, tu rentres, tu vas, tu viens. Et tu vis de la croix du Christ dans l'hostie. Tu es une hostie vivante, ça se voit pas, sans être vu. Tu es une victime éternelle d'amour. Tu es dans l'union avec Dieu. Si tu le veux, tu peux me rendre.